Inceste 3, traiter les agresseurs. La société a le devoir d'accompagner les victimes d'inceste. Mais si elle veut enrayer ce fléau, elle doit également soigner les auteurs, aussi innommables soient leurs actes. Le documentaire Le sous-sol de nos démons, réalisé par Fanny Fontan, révèle que les agresseurs sont des messieurs tout le monde, souvent dans le déni, et parfois eux-mêmes victimes dans leur enfance. Le film a été tourné dans une unité de soins pionnière, à l'hôpital La Péronie à Montpellier. Quand Ferrier Lalouti, sa co-autrice, lui a proposé le sujet, la première réaction de Fanny Fontan fut la colère. Comment des médecins peuvent-ils aider les auteurs, alors que les victimes doivent se débrouiller toutes seules? Comment peuvent-ils faire du bien à des personnes qui font du mal? Pour cette autrice réalisatrice, c'était un peu la double peine pour les victimes. Elle sortait alors à peine de son magnifique documentaire intimiste N'en parle pas, c'est un secret, sur le parcours de résilience des survivants d'inceste. Il lui était impensable de passer du côté des agresseurs. Encore moins d'envisager l'humain derrière ces monstres. Dans l'image collective, la seule réponse aux pires crimes, moralement et socialement, est de les castrer ou les mettre en prison à vie. Pour purger l'horreur. Pour protéger nos enfants. Pourtant, elle a fini par changer d'avis et vient de réaliser le documentaire Le sous-sol de nos démons. Accompagner les auteurs est d'utilité publique. La rencontre avec Magali Teilhard-Dira, psychologue clinicienne, et Mathieu Lacambre, psychiatre, a achevé de la convaincre. Ces deux spécialistes en criminologie et victimologie travaillent au CRIAV de Montpellier, qui a créé en 2010 une unité de soins pour les personnes présentant des déviances ou perversions sexuelles. En 10 ans, le nombre de consultations n'a fait que doubler tous les 2 ans avec, aujourd'hui, plus de 400 personnes suivies. Il apparaît à la réalisatrice que soigner les auteurs est d'utilité publique. Si on les plonge dans l'abîme, comment éviter la répétition? En 10 ans, environ 800 agresseurs de mineurs et de majeurs ont été suivis, chiffre qui dépasse le millier, avec les consultations en milieu carcéral. Il apparaît à la réalisatrice que soigner les auteurs est d'utilité publique. Si on les plonge dans l'abîme, comment éviter la répétition? Fermez les guillemets. La répétition des violences sexuelles repose sur le silence car, l'histoire le montre, les violences sexuelles sur mineurs ne datent pas d'hier et se répètent indéfiniment. Sans que rien ne modifie cette spirale infernale, car elle repose sur le silence. Surtout dans le cas d'inceste, comme l'explique Dorothée Ducy, anthropologue et auteur de l'ouvrage « Le berceau des dominations, anthropologie de l'inceste ». Heureusement, la parole se libère depuis quelques années et révèle l'agresseur tapis sous des personnalités connues, le photographe David Hamilton, l'écrivain Gabriel Matzneff, l'entraîneur Gilles Baillet, le sculpteur Paul, l'évêque ou le constitutionnaliste Olivier Duhamel. Il existe aussi des agresseurs moins connus, mais tout aussi abjects, comme le chirurgien Joël Le Squarneck. C'est avec la vague hashtag #MeTooInceste, qui déferle depuis samedi, que le grand public prend vraiment conscience de la banalité de ce mal. Elle est née suite à la parution du livre de Camille Couquenet, La Familia Grande. Un livre terrifiant et bouleversant qui apporte un éclairage nouveau sur les tentacules du silence. Majoritairement dans les familles. Ces violences sexuelles sont commises dans 80% des cas dans le cercle familial. Mais contrairement à certaines réactions, qui affluent depuis les révélations de Camille Couquenet, ces abus ne sont pas liés à une époque, mai 68, une couleur politique, gauche caviar, ou un milieu social, intelligentsia parisienne. C'est un crime de lien, qui touche toutes les familles. Tout comme le silence de la victime et l'omerta familiale qui en découle. Il est vrai, en revanche, que la libération sexuelle a permis à des personnalités d'assumer au grand jour leur attirance pour les enfants et de l'étaler sur la place publique. Avec, comme conséquence, la banalisation de cette déviance. Dans le documentaire de Fanny Fontan, deux auteurs confient que les propos de Matzneff les ont influencés. Glaçant. Démystifier le monstre pour comprendre et prévenir. Qui se cache derrière ces hommes ? En cherchant les raisons qui les ont poussés à commettre de tels actes, le risque n'est-il pas d'humaniser ces monstres? Pour Fanny Fontan, essayer de comprendre, ce n'est pas excuser mais prévenir. Décortiquer le passage à l'acte peut en effet éviter sa répétition et, par ricochet, permettre aux victimes de se réparer. Pour être au plus près de la réalité des agresseurs, la réalisatrice en a suivi une dizaine pendant un an en prison et à l'hôpital La Péronie, au deuxième sous-sol, un endroit enfoui, enterré, à l'abri des regards. Tout un symbole qui souligne qu'on ne veut pas les voir. Ces hommes, le plus souvent enfermés dans leur déviance, se confient à la psychologue Magali Teilhard-Dira lors d'entretiens individuels ou de groupes de parole, voire parcours de soins en bonus. Parmi les auteurs rencontrés, Fanny Fontan en filmera 4. Ils ont effectué leur peine de prison ou sont en attente de leur procès. Un seul est derrière les barreaux. les personnes que nous recevons sont majoritairement en obligation de soins, c'est-à-dire condamnées à un suivi psychiatrique. Mais 20% viennent librement, soit parce qu'elles ont terminé leurs obligations judiciaires, soit parce qu'elles consultent avant de passer à l'acte, précise le docteur Lacambre. Ces monsieur tout le monde sont rarement des pédophiles. La première chose que la réalisatrice pointe est que les gros pervers, les prédateurs ou marginaux, sont minoritaires. La plupart de ces hommes sont bien intégrés socialement, ont un métier, une vie de famille, des hobbies, parfois des enfants. Ils ne sont pas fous, ne sont pas atteints d'une maladie quelconque. Et ont une autre sexualité, normale, adulte. Ce dernier aspect les différencie des pédophiles, dont la sexualité est unique, axée uniquement sur les mineurs. Ce sont par ailleurs des mecs bien, bon père, mari, professeur. Dans son livre, Camille Couquenet parle de ce beau père, qu'elle aimait comme un père. Il m'encourageait pour tout. Il me portait, me rassurait, me donnait confiance. Ce sont nos pères, nos frères mais aussi nos mères. Ainsi, les agresseurs ne sont pas des monstres mais nos pères, nos frères, nos oncles, virgule, égrène Fanny Fontan. Ce crime est perpétré en majorité par des hommes, 95% selon une note de l'ODPRE. Dans les faits, la proportion de femmes agresseurs est plus importante, selon les associations. Ce sont nos mères, nos sœurs, nos grands-mères ou grand-tantes, comme en témoigne Sophia Antoine. Sous couvert de soins, l'auteur assouvit ses pulsions en pratiquant des toilettes intimes trop fréquentes, prises de température inutile, c'est du nursing pathologique, précise Randaldo, présidente de l'antenne marseillaise face à l'inceste. L'inceste féminin est le plus grand des tabous, les femmes ont la fibre maternelle, elles ne peuvent pas faire ça, ce n'est pas possible, elles n'ont pas de pénis, comme l'explique parfaitement le psychiatre Jean-Michel Darve-Borneau. Il en résulte que les victimes ont davantage de difficultés à réaliser qu'elles sont victimes d'inceste, davantage de difficultés à en parler. Encore moins à déposer plainte. Cette réalité de monsieur et madame tout le monde fait peur, mais en même temps, si on ne l'intègre pas, on passe à côté de ce phénomène d'autant plus grand et difficile à résoudre qu'il est subtil. Petit à petit, ça dérape. Le mécanisme reste toujours un peu le même. Ces hommes et femmes prennent soin de leurs proches, leur donnent le bain, les emmène à l'école, au poney, au ciné. Et puis, petit à petit, ça dérape. La limite, le voyant rouge, ne s'allume pas. Et le geste devient insidieusement sensuel puis sexuel. Sans contrainte, souvent en douceur, rarement avec brutalité. Parmi les agresseurs sexuels, il y a ceux qui pensent avoir une relation particulière avec un enfant, détaille Mathieu Lacambre, ils se sentent proches, amoureux, c'est leur préféré, d'autres agissent par opportunité, ils se sentent seuls, manquent d'affection, prennent l'enfant qu'ils ont sous la main. Les agresseurs sexuels pédophiles, eux, assouvissent leur intérêt sexuel pour les mineurs. Dominés par son affection et sa confiance en celui qui l'agresse, la victime se laisse faire. Et les auteurs croient qu'elle donne son assentiment. Je pensais que, comme elle ne disait rien, elle était consentante, explique l'un d'entre eux, dans le documentaire de Fanny Fontan. Les agresseurs sont souvent dans le déni. Nombreux sont les incesteurs à être dans le déni, mécanisme de défense, de protection, précise Mathieu Lacambre. Pour eux, ils n'ont pas fait de mal, pas violé. Sentiment parfois conforté par le conjoint. Dans le cas de Camille Couquenet, sa mère, époux de l'agresseur déclare, lorsque le secret éclate, que son fils n'a pas subi de sodomie mais des fellations, c'est quand même très différent. Et plus tard, il n'y a pas eu de violence. Ton frère n'a jamais été forcé. Mon mari n'a rien fait. C'est ton frère qui m'a trompé. Retournement des rôles, la victime devient alors la coupable, celle qui séduit. Tant qu'ils sont dans le déni, les agresseurs ne prennent pas conscience de ce qu'ils font, affirme la thérapeute Simone Sabassier, spécialiste psychocorporelle, psychogénéalogie et constellation familiale, formatrice à l'association Stop aux violences sexuelles. Ils sont dans l'illusion, se persuadent qu'ils sont amoureux. Par exemple, leur stratégie pour asseoir le silence varie, de la complicité, c'est notre secret à nous, à la menace, si tu parles, ta mère ne le supportera pas. En passant par le chantage, si tu viens, je t'aiderai à faire tes maths. Parfois aucun mot n'est nécessaire. Poser des mots pour éviter le passage à l'acte. Il est essentiel que l'inceste ait une réponse judiciaire, pour protéger le mineur bien sûr. Mais aussi pour que victime et auteur soient reconnus comme tels par la société, à défaut de l'être par l'agresseur lui-même, voire la répression de l'inceste en bonus. Mais le traitement de l'abus sexuel des enfants ne peut pas trouver de réponse dans la seule répression. Le parcours de soins, obligatoire pour toute condamnation, permet aux auteurs englués dans leur déviance de confier pour la première fois leurs actes. La difficulté pour eux, c'est de parler. car si le secret s'impose à la victime, c'est le cas aussi pour l'auteur. La honte, la culpabilité consolide le secret, souligne Mathieu Lacambre. Alors quand il peut libérer sa parole, c'est le soulagement et le début d'un processus de guérison. Quand on met des mots, on évite la plupart du temps les actes. Libérer la parole permet de conscientiser leurs problèmes. Passer du déni à l'acceptation des faits. Mettre à distance. Déconstruire le passage à l'acte pour éviter la récidive. Réaliser les dégâts physiques et psychologiques sur la victime. Et peut-être s'excuser auprès d'elle pour toute la souffrance infligée. La meilleure des réparations. Comprendre la genèse de cette déviance sexuelle et la déconstruire. Dans le documentaire, quand son patient évoque son fantasme et son désir pour les petites filles, Magali Teillardira lui indique que ce n'est pas arrivé comme ça. Le fantasme s'est créé à un moment donné dans sa trajectoire de vie. L'idée alors est de conduire l'agresseur à mettre bout à bout son histoire autour de son penchant pour comprendre sa genèse. Le patient évoqué plus haut évoquera son enfance dans un établissement religieux où quelqu'un l'a approché. Cette révélation ne surprend guère la psychologue. Pas mal d'auteurs sexuels ont subi des agressions durant leur enfance. Des auteurs souvent victimes dans leur enfance. Une fois sur trois, les auteurs d'abus sexuels sur mineurs ont eux-mêmes été victimes, rapporte Mathieu Lacambre. Certaines études parlent de 50%. Mais ils ne s'en souviennent pas forcément, souvent en raison d'une amnésie post-traumatique, APT, mécanisme de défense qui fait disparaître tout souvenir de la mémoire. Plus l'enfant est jeune, plus il va être soumis à cette amnésie, observe Simone Sabassier de Stop aux violences sexuelles. Elle estime de son côté que les auteurs ont vécu dans la plupart des cas, si ce n'est pas tout le temps, des agressions sexuelles dans leur enfance ou adolescence tue, cachée, enfouie, cette enfance bafouée n'a pas été réparée et a figé la victime dans cette position qui peut alors développer des comportements déviants. Car, au moment de l'agression, explique Simone Sabassier, quel que soit l'âge, il se produit la plupart du temps un phénomène de sidération clouant la victime sur place. Ses émotions et ses sens sont bloqués. Les victimes reçoivent de plein fouet une énergie meurtrière. La victime reçoit de son agresseur une décharge d'énergie meurtrière qui impacte son psychisme, mais surtout son corps. Comme une cocotte minute, cette énergie meurtrière implose de l'intérieur, ce qui peut donner des maladies auto-immunes ou des scarifications, tout ce qui va détruire le corps. Ou explose à l'extérieur, la victime va reproduire ce qu'il a lui-même vécu, souvent au même âge et souvent de la même façon. Cette donnée n'exonère en rien leur responsabilité, elle permet juste de donner des explications, insiste Magali Teillardira, qui explique à ses patients que ce n'est pas parce qu'ils ont été dans la position de victime qu'ils sont obligés d'y rester. Vous pouvez décider de changer de place, de la même manière que vous pouvez transformer vos fantasmes. Pour qu'il puisse évoluer, elle insiste pour qu'il ne se voit pas comme un monstre, mais comme une personne ayant commis des actes monstrueux. Évolution positive des soins, certains auteurs évoluent positivement dans leur parcours de soins à l'hôpital La Péronie. Ils comprennent la gravité de leurs actes, que ce n'était pas de l'amour, que la victime n'était pas consentante, qu'il la détruisait, qu'il la trompait, le poney, le sport, l'école, c'est normal. Les attouchements, c'était en trop, observe l'un d'entre eux. Un autre réalise que son sentiment amoureux pour sa victime était une illusion, qu'il confondait amour et sexualité, que finalement, la manipulation, c'est une autre forme de violence, qu'il n'aimerait pas être à la place des parents. La psychologue approuve ses prises de conscience, vous poser des questions signifie que vous êtes sur le bon chemin, et rechute. Toute la difficulté pour ces repentis est ensuite de lutter contre leurs pulsions. Ils souffrent de leur déviance et craignent de repasser à l'acte, expliquent que si c'était si simple à combattre, ils n'auraient pas tout perdu. Famille, boulot, virgule, rapporte Fanny Fontan. L'un des auteurs de violence, qui continue à venir bien qu'il ne soit plus sous obligation de soins, est désespéré. N'en voit pas le bout, malgré la prise d'androcure, médicament destiné à réduire les pulsions sexuelles. Et puis, il y a les rechutes. Un autre patient lâche que le samedi précédent, il est retourné sur un chat pédophile. Il a l'impression que les choses lui échappent. Le fait de me laisser à des pulsions, je ne suis plus maître de moi. Du coup, après, je me dégoûte. Un autre, je suis en lutte. C'est une guerre permanente. Possible guérison ? Alors, possible guérison ? Je ne continuerai pas mon métier dans le cas contraire, soutient le docteur Lacambre. Pour les auteurs d'agressions sexuelles incestueuses pris en charge, la récidive est de 1 à 3% dans les 5 ans, période critique. A contrario, les auteurs d'agressions pédophiles pris en charge récidivent de 10 à 12% et ceux qui ne le sont pas, de 20 à 25% dans les 5 ans, le pédophile homosexuel avec violence étant le pire profil. agir à la source pour éviter que les auteurs ne passent à l'acte. Pour enrayer le fléau des abus sexuels sur les enfants, le plus efficace est d'agir à la source. Il faut accompagner les victimes pour qu'elles puissent se réparer et qu'elles ne deviennent pas à leur tour bourreaux. Il faut également intervenir auprès des personnes souffrant d'attirance sexuelle sur mineurs avant qu'elles passent à l'acte. Mathieu Lacambre relate que, le plus souvent, les agresseurs avaient demandé de l'aide, mais sans trouver de réponse, ni de ressources. Les praticiens ne sont pas formés ou ne veulent pas accompagner ce type de public. Parce que c'est un crime immoral ou parce qu'ils ont peur d'être responsables d'une récidive, déplore Fanny Fontan. Ces hommes et femmes se retrouvent alors seuls avec leurs démons. Selon le psychiatre, 5 à 20% de la population générale ont des pensées ponctuelles à connotation sexuelle envers des enfants. Une ligne d'écoute à destination des personnes attirées sexuellement par les enfants. Avec le soutien des équipes des CRIAV, le docteur Lacambre a mis en place en novembre 2019 une ligne d'écoute nationale et anonyme à destination des personnes attirées sexuellement par les enfants. Ce dispositif permet d'évaluer et réorienter les appelants vers des soignants dans 52 départements pour le moment. Depuis l'ouverture de cette plateforme téléphonique, il y a eu 1200 appels dont 105 qui ont abouti à une prise en charge. Pour reprendre les propos du docteur Lacambre, une personne prise en charge, c'est une victime ou plusieurs victimes en moins.